Nous allons aborder un autre élément de l'architecture. Après l'escalier, nous allons aborder aujourd'hui l'ascenseur. Ce sont des éléments qui sont assez semblables, hein, puisqu'ils servent tous les deux, on va le voir, hein, on a déjà vu la fois d'avant, mais ils servent tous les deux à s'élever. Mais par contre, l'escalier, il est millénaire, quoi. Il existe depuis des siècles et des siècles. Il est peut-être même à l'origine de l'architecture. Tandis que l'ascenseur, c'est un élément nouveau qui a été inventé au XIXe siècle et qui a, on va le voir, bouleversé, bien sûr, l'architecture. D'abord parce qu'on a construit plus haut, mais aussi c'est notre rapport à l'espace qui a complètement été changé. Et c'est ce que nous allons chercher donc à bien cerner aujourd'hui. Alors, il y a des mythologies, vous voyez, autour de l'ascenseur. Il y a peut-être des mythologies qui ont devancé l'invention de l'ascenseur. La première, la plus démente, c'est la mythologie chrétienne, qui est aussi quelque part assez récente, puisque le dogme de l'Assomption, le fait qu'on dise que la Vierge Marie n'est pas morte et ressuscitée, mais montée directement au ciel, c'est un dogme qui date des années 1950, même s'il a travaillé, bien sûr, donc, pendant des siècles, donc toute la théologie chrétienne. Alors pourquoi parler d'Assomption, voilà, en parlant de l'ascenseur ? Simplement en regardant cette fresque du Corrège. Voilà, on voit donc un corps, le corps de la Vierge, le corps ni mort ni vivant, endormi, voilà, qui monte vers le ciel, dans un état de lévitation. Vous voyez, voilà, c'est ça qui, c'est ça peut-être qui constitue, vous voyez, la première mythologie en ce qui concerne l'ascenseur. On le prend et puis sans fatigue, voyez, sans avoir à construire, à chercher à construire des tours de Babel, voyez, sans avoir à chambouler la terre, voyez, pour et aussi sans se fatiguer, voyez, sans s'épuiser, voilà, à monter vers le ciel. Là, voilà, doucement, voyez, dans une grande spirale, voilà, entouré d'anges, on monte vers la lumière. Cette image, voilà, je vous conseille de bien la garder à l'esprit pendant tout le cours, parce que bien sûr, voilà, elle nous informe sur ce qu'est l'ascenseur. Voilà, autre image, très différente, c'est beaucoup plus classique, même si c'est exactement la même époque, celle de Poussin, donc une Assomption. Donc, c'est-à-dire, c'est pas une, qu'on appelle ça, une élévation, c'est pas après une résurrection, non, c'est le passage direct, vivant, de la terre au ciel, une montée vivante, de la terre au ciel, et surtout une montée sans aucun effort. Voilà, sans effort, eh bien, on est poussé, voilà, vers les hautes sphères. Vers le ciel. Deuxième mythologie, deuxième qui accompagne quelque part, ou qui précède, ou qui anticipe, voilà, la naissance de l'ascenseur, c'est la question du Deus ex machina. Vous savez, ces machines théâtrales là, qui ont été inventées dès l'Antiquité pour justement permettre de mettre en scène les dieux. Voilà. Puisque dans le théâtre grec, il y a les dieux et il y a les hommes. Bien sûr, ils sont pas au même niveau, puisque les dieux, ils occupent le ciel et ils sont immortels, et les hommes, eux, ils occupent la terre et ils sont mortels. Donc, pour les représenter, il a fallu inventer des machineries pour justement les soulever, pour soulever les dieux. C'est une chose, je trouve assez intéressante parce que, enfin, on va le voir peut-être tout de suite, mais c'est vrai qu'elle hante complètement le théâtre, vous voyez. Là, récemment, je suis allé à une représentation du Tartuffe. On sait qu'à la fin, il y a il aurait dû y avoir une machinerie, hein, puisqu'effectivement, donc, le roi intervient, et on voit très bien que ces deux niveaux, hein, qui sont totalement, sont comme une mesure, celui des hommes et celui des dieux, hein, ou du monarque, hein, de droit divin. Et cette différence, effectivement, donc, elle avait été pensée, hein, par les ingénieurs des théâtres, avec des palans, des potences, vous voyez, pour soulever, hein, le corps des acteurs représentant les dieux. Bon, là, c'est beaucoup plus récent. Il n'y a pas de gravure qui représente les scènes de théâtre antique, enfin les représentations antiques. Hein, là, c'est une gravure qui représente une représentation d'Andromède. Hein, c'est une tragédie pas très connue de Pierre Corneille, parce que c'est justement une tragédie à machine, donc il y a toute une machinerie, hein, qui permettait effectivement donc d'élever les dieux, d'élever et bien marquer, voilà, la différence entre les dieux et les hommes. Là aussi, oui, je vous demande de l'avoir en tête, voilà, cette idée-là. Hein. Parce que plus loin, ça c'est une gravure toujours du XVIe siècle, mais qui ne représente pas une tragédie du XVIIe siècle, comme tout à l'heure, mais c'est une représentation donc du XVIe siècle des nuées d'Aristophane, vous voyez. Et là, on voit, vous voyez, donc Socrate, hein, qui est posé, voilà, sur indûment quelque part, hein, sur une machinerie, hein, réservée aux dieux, puisque toute la pièce d'Aristophane, enfin, vous le connaissez mieux que moi, les nuées, hein, c'est de ridiculiser Socrate, hein, de le faire passer pour, enfin, de le faire passer, peut-être il l'était d'ailleurs, enfin, de le présenter, pardon, voilà, comme un sophiste. Et bien sûr, c'est ce qui a ensuite, donc quelques années plus tard, donné lieu à son procès et puis à sa condamnation, hein, pour hybris, hein, parce que justement, il ne respectait pas la piété civile. Hein. Et donc voilà, vous voyez, donc il y a cette idée-là, vous voyez, de l'ascenseur, hein, de Deus ex machina, mais d'une machine quelque part, voilà, qui est réservée. Donc, non pas aux hommes, mais aux dieux. Et en prenant ces machines, quelque part, voilà, hein, on commet peut-être, comme Socrate, un acte d'hybris, hein, puisqu'on passe du statut d'humain au statut de divin. Je ne pense pas que je vais développer, mais en tout cas, il faut garder en tête, voilà, ces deux images, vous voyez, ces deux mythologies. Il y en aura d'autres. Hein. Il faut garder en tête ces deux mythologies, et il faut bien voir, voilà, que finalement ces machines, hein, qui nous élèvent, voilà, à la fois donc elles renvoient donc à l'assomption, à cette montée au ciel sans passer par le trépas, et puis donc bien sûr au deus ex machina. Et peut-être quand on prend un ascenseur, eh bien on est peut-être aussi un dieu. On va voir ça tout à l'heure. Bon, revenons maintenant, vous voyez, là, au XIXe siècle, et revenons à la genèse de l'ascenseur. Hein. C'est vrai que l'ascenseur, voilà, il a quand même une naissance, vous voyez, un peu étrange, parce que c'est vrai que c'est une machine. On l'a vu, bon, c'est la machinerie de théâtre. Bon, on reviendra à la fin dessus. C'est aussi la mine, hein, mais c'est aussi le Luna Park, vous voyez, la fête foraine, vous voyez. Hein. Ce qui a anticipé, bon, c'est vrai que les images là, elles sont plus récentes que la naissance de l'ascenseur, mais en fait, vous voyez, c'est ça qui a anticipé la naissance de l'ascenseur. C'est là où on a développé, vous voyez, donc, toutes ces technologies, hein, pour élever les corps dans les airs. Et là, élever les corps dans les airs, ce n'est pas pour que les gens se prennent pour des dieux, mais c'est pour qu'ils aient des sensations, vous voyez, des sentiments, voilà, qu'ils aient peur, qu'ils aient le vertige. Vous voyez, hein, ce sont des grandes machineries. Hein, vous voyez, destiné à décupler, voilà, vous voyez, les sensations humaines. Et ça, c'est vrai, c'est une chose. Bon, bien sûr, on peut avoir le vertige dans un escalier, mais c'est évident que voilà, quand on prend un ascenseur, hein, on a quand même beaucoup plus, parce qu'on peut sembler, vous voyez, complètement jeté dans le vide. D'autant plus que dans ces manèges, tout était fait vraiment exprès, bien sûr, pour provoquer, vous voyez, ces sentiments de vertige, hein, de déréliction. Hein. Voilà, donc là, c'est une tour qui monte et qui descend, et en même temps qui tourne. Hein. Et là, vous voyez, c'est toutes sortes de manèges, donc une grande roue, hein, donc, où les cabines montent et puis redescendent, et puis ensuite une tour, hein, où des nacelles sont toutes rattachées par des câbles, hein, sont parachutées, donc, et puis descendent pratiquement en chute libre, hein, vers le sol. Et là, c'est la naissance de l'ascenseur, mais la naissance de l'ascenseur, quelque part, c'est aussi, vous voyez, dans cette ambiance un peu festive, d'exposition universelle, hein, de fête foraine. Et là, c'est Otis, donc, l'inventeur de l'ascenseur moderne, hein, qui le présente donc, au Crystal Palace à New York en 1853. Et en fait, ce qu'il a inventé dans l'ascenseur, bon, c'est sûr que ce n'est pas les poulies, ce n'est pas les cordes qui permettaient de monter les cabines, hein, c'est simplement un système de crémaillère, qui permettait à la cabine, au cas où la corde romprait, de se maintenir sans tomber. C'est l'invention un peu majeure donc, qui a permis le développement de l'ascenseur. Et donc il y a ce développement, vous voyez, donc, ludique, ce développement, disons, ce monde de sensations qui s'ouvre donc, autour de l'ascenseur. C'est Luna Park, c'est Coney Island. Et puis, de l'autre côté, on va voir, donc, il y a un autre monde, hein, où là, l'ascenseur, il va être, disons, soumis, voilà, à une fonction très, très précise. Il va être aussi, si vous voulez, encagé. Hein. Donc, on peut imaginer, voilà, une sorte de bête sauvage qui donne le vertige, qui jaillit dans le ciel. Et tout d'un coup, on la met dans une gaine, et puis on met cette gaine au centre du bâtiment. Et on empêche la cabine de tomber. Et puis on la règle, on la dompte, hein, pour que justement elle puisse desservir, hein, tous les étages, hein, donc, des nouvelles constructions américaines, hein, que ce soit à New York ou que ce soit à Chicago. Voilà, parce que finalement la ville de Babel, hein, comme le montre cette image qui est complètement démente, hein, de Erastus Salisbury Field, hein, ce peintre, je ne sais pas, un peu naïf, là, enfin, à la fois réaliste et naïf de la fin du XIXe siècle, hein, c'est que voilà, les tours de Babel, la ville de Babel, avec que des tours de Babel, c'est pas l'escalier, hein, c'est pas Babylone, hein, ça va être New York, hein, ça va être Chicago, et tout ça, ça va être permis, voyez, par cette invention, et surtout par la domestication, hein, de cette invention qui pouvait partir dans tous les sens, qui était là peut-être pour nous donner des sentiments, enfin, pour exacerber, hein, nos sentiments, nos sensations, et puis qui, tout de suite, hein, eh bien, est arraisonnée, voilà, vous voyez, hein, donc, soumise à la raison. Et tout ça, effectivement, pour construire des bâtiments de grande hauteur. Là, c'est le Home Insurance Building de William le Baron Genet. Hein, donc un bâtiment donc, en métal, voilà, une structure métallique, avec au centre donc, hein, la cage d'ascenseur. Et cet ascenseur, effectivement, il va bouleverser complètement la typologie de l'immeuble, puisque voyez, à l'origine, donc, quand on faisait un immeuble, le rez-de-chaussée, c'était pour les commerces, le premier étage, c'était l'étage noble, parce qu'on n'avait pas à monter beaucoup d'escaliers, et puis après, les derniers étages, au contraire, c'était plutôt les étages délaissés, réservés aux services, parce qu'il fallait monter 6, 7 niveaux d'escaliers. Avec l'ascenseur, c'est vrai que tout est bouleversé. Donc, tout est bouleversé, puis quelque part, les choses se remettent sans dessus-dessous, parce que finalement, les étages nobles, ça va être les étages qui vont être au plus près du ciel, hein, qui vont recevoir le maximum de lumière. La question de la lumière, elle va devenir totalement déterminante. Et puis aussi, comme on commence à le voir, finalement, vous voyez, dans l'organisation du bâtiment, vous voyez, ce sont des strates, et toutes ces strates, elles sont pratiquement équivalentes. Bon, bien sûr... le mec, le baron Genet, il avait dû suivre l'école des beaux-arts, donc il a quand même fait un socle en bas, hein, il a recouvert la structure de pierre de taille, et puis ensuite il a fait un attique en haut, mais en fait non, vous voyez, tout est, avec l'ascenseur, tout peut être changé. C'est-à-dire que, et c'est très souvent comme ça dans les gratte-ciels américains plus récents. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours effectivement, des commerces en bas, mais après, au-dessus des commerces, vous pouvez avoir des parkings, hein, parce que c'est des étages qui sont les moins intéressants. Et puis ensuite, vous pouvez avoir des bureaux. Et puis enfin, vous pouvez avoir des logements. Vous voyez, toute la distribution, générale de l'immeuble est complètement bouleversée par l'ascenseur. Voilà, donc là c'est la structure en métal qui peut être montée extrêmement rapidement. Donc des niveaux qui sont beaucoup plus importants, beaucoup plus nombreux. Des univers aussi, on va le voir tout à l'heure, vous voyez, qui s'ouvrent et desservis par l'ascenseur. Voilà, ça c'est plutôt l'école de Chicago, donc des bâtiments très rationnels, où l'ascenseur dessert des plateaux qui peuvent être pratiquement équivalents, il n'y a plus de hiérarchie, donc tout est possible. Et là, bon, c'est la solution plutôt new-yorkaise, où effectivement l'important, ce n'est pas tant d'avoir des bâtiments qui soient structurellement, dont on voit la structure, mais c'est surtout arriver à faire parvenir la lumière, vous voyez, dans les rues. Je me rappelle, j'étais encore un étudiant, et puis il y avait un copain qui était parti à New York, et puis il était revenu, et puis il m'avait dit un truc qui m'avait vraiment totalement bouleversé. Il m'avait dit, tu vois là-bas, par exemple, en fin d'après-midi, en haut, il fait jour, et puis en bas, il fait nuit. Voilà, c'est vrai que c'est ça. Et donc là, effectivement, tout est fait, vous voyez, dans ces esquisses-là de Hugues Ferris, qui a inventé quelque part l'immeuble new-yorkais pour que la lumière donc, puisse descendre le plus profondément possible dans la rue. Voilà. Bien sûr, il y a des ascenseurs là-dedans, mais c'est vrai que ces ascenseurs, on ne les voit pas. Ils vont bien sûr réapparaître à la suite du cours. Autre, conséquence de l'invention de l'ascenseur. Voilà, ça c'est le Downtown Athletic Club dont parle Rem Koolhaas dans New York Délire. Et c'est vrai qu'il a toute une théorie de l'ascenseur, puisqu'il me dit que finalement, voilà, avec l'escalier, quand on monte d'un étage à l'autre, le fait qu'on fasse un effort, vous voyez, qu'on se fatigue, qu'on réfléchisse aussi en marchant, en montant, vous voyez, ça crée, ça fait de l'escalier un espace initiatique, vous voyez, voilà, parce que quand on passe, quelque part on pourrait dire, enfin on l'a vu la semaine dernière, la dernière séance, quelque part on pourrait dire que l'escalier, bien sûr, il vous transforme, voilà, vous voyez, il vous change. Vous n'êtes pas le même quand vous prenez l'escalier et que vous partez du rez-de-chaussée pour monter au sixième étage. Voilà, au sixième étage, vous êtes quelqu'un d'autre. Voilà. Tandis que l'ascenseur, non, c'est pas ça. Tu rentres dans l'ascenseur, putain, t'arrives au 50e étage, c'est toujours le même, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Comme Marie, voilà, tu vois, tu meurs pas. Tu montes directement de la terre au ciel. Tu vois. Et, voilà. Et là, c'est ça qu'il a. Et c'est ça que Koolhaas a théorisé, donc, à partir de ce bâtiment, le Downtown Athletic Club. Et c'est vrai, ce bâtiment, voilà, quand on le voit, on ne sait pas ce que c'est, quoi. On ne sait pas si c'est un immeuble de bureau, un immeuble de logement. Vous voyez, il est aussi découpé, donc à la manière de Hugues Ferris, pour pouvoir faire arriver la lumière en bas. Mais vous voyez, il ne dit rien, vous voyez, de sa fonction, il ne dit rien de la manière dont il est desservi. Et en fait, quand on voit la coupe, voilà, on s'aperçoit qu'en coupe, on voit qu'il y a des choses très très différentes, mais qui ne sont pas du tout énoncées par l'enveloppe, qui ne sont pas du tout dites en façade. C'est comme c'est le Downtown Athletic Club, eh bien, chaque étage, vous voyez, correspond à un sport particulier. Voilà. Donc, il y a des rings pour la boxe, avec des gens qui tapent dans des punching balls. Il y a une piscine, voilà, pour les nageurs, vous voyez. Il y a des endroits pour la gymnastique, il y a des vestiaires. Et quelque part, voilà, c'est vrai que le monde sportif, vous voyez, c'est vrai que c'est pas pareil de jouer au football et puis d'être de nager, quelque part en plus, c'est même morphologiquement, les sportifs, ils sont complètement différents, vous voyez. Ils appartiennent, voilà, le monde où on tape sur un ballon comme un con, c'est pas le même que celui dans lequel on plonge dans un bassin. Vous voyez, c'est des mondes complètement différents. Et là, ce que dit Koolhaas, c'est que, voilà, avec l'ascenseur, On peut faire un jeu de mots voilà, et parler de stories, d'histoire, et de story, plancher. C'est-à-dire que à chaque étage, il y a une histoire différente. Voilà. Il y a un monde différent. Et l'ascenseur, justement, il vous permet de plonger voilà, sans initiation aucune, vous voyez, dans des mondes complètement différents. Vous voyez, voilà. C'est ça, quelque part, c'est une des leçons aussi de l'ascenseur. Vous voyez. Et c'est en ce sens aussi où il change totalement donc, notre rapport au monde, enfin, en tout cas d'une certaine façon, parce qu'on va voir, il y a beaucoup de façons dont il le change, c'est certain, j'ai déjà parlé de plusieurs façons tout à l'heure, il change notre rapport au monde, et c'est bien sûr, ce cours, c'est ça, c'est voir effectivement, vous voyez, en quoi ces éléments de l'architecture, ils changent notre rapport au monde, ou plutôt, ils ne changent pas, ils construisent, vous voyez, donc un rapport au monde. Voilà, là c'est un plancher, bon, bien sûr, c'est très théorique cette idée de l'ascenseur qui s'ouvre sur une salle, parce que là on voit déjà qu'il y a des sas quand même, malgré tout, entre les salles et les sas, mais en tout cas, vous voyez, potentiellement, c'est comme ça, vous voyez, voilà. On arrive, on n'est pas transformé, on n'a pas subi d'initiation, et puis on passe du monde de la rue voilà, au monde des gens qui se tapent sur la gueule à coups de poing, ou on passe du monde de la rue voilà, aux gens qui nagent, qui font des longueurs de bassin et des longueurs de bassin, vous voyez. Donc, des mondes complètement différents, à travers desquels on peut passer sans aucune transition. Mythologie 3, c'est autre personnage. On a vu la Vierge, on a vu Socrate ou le Deus. On a vu l'appareillage, on a vu les dieux, voilà, on a vu la Vierge, on a vu les dieux, et maintenant Dédale. Ça, Dédale, c'est toujours un héros qui m'a... Enfin, finalement, Dédale, c'est un type qui te fait vraiment flipper, quoi, c'est clair. Parce que, enfin, quand on voit sa vie, vous voyez, c'est un mec, il a inventé des trucs, enfin, il a inventé beaucoup de choses, mais surtout, la première invention, c'est de faire... Il a fait un truc complètement délirant. C'est-à-dire que la femme de Minos, Parsifae, elle était amoureuse d'un taureau blanc, pour un sacrifice. Et elle voulait absolument s'accoupler avec lui. Et lui, voilà, il a trouvé le moyen, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, voilà, de changer le monde, de faire en sorte que cet accouplement, qui est totalement contre nature, eh bien, il soit possible. Et donc, Parsifae s'est accouplée grâce à un dispositif inventé par Dédale, avec le taureau blanc. Et un autre monde, voilà, c'est ouvert. De cet accouplement est né le Minotaure. Et Minos, qui ne voulait pas tuer cet enfant, mais qui ne voulait pas non plus qu'il soit en liberté, demande ensuite à Dédale de construire un palais pour ce Minotaure, à la fois taureau et homme, un palais dans lequel le taureau ne peut pas sortir parce qu'il se perd, et dans lequel quiconque rentre, eh bien, se perd. Mais ça, je vais vous dire un truc, un monde dans lequel on se perd, en tout cas, on ne peut pas sortir, ah, putain, c'est la ville d'aujourd'hui, quoi, vous voyez. Donc là, bon, donc Dédale, voilà, d'abord, il a inventé un truc qui permet donc, la procréation interespèce. Et en plus, vous voyez, il a inventé la ville, quoi. Et ensuite, comme Minos l'avait enfermé dans dans ce palais, donc dans ce labyrinthe, pour en sortir, donc il s'est construit des ailes en cire, vous voyez. Donc quelque part, on pourrait dire, c'est aussi donc, un précurseur de l'ascenseur. Vous voyez. Voilà. Autre exemple, vous voyez, de machine volante, c'est un grand artiste russe, Vladimir Tatlin, l'homme, on va le voir, qui avait fait le projet pour la tour de la Troisième Internationale, qui c'est un des projets les plus, disons, prégnants de l'architecture constructiviste russe. Bien lui aussi, vous voyez, donc, dans les années 30, voyez, comme Dédale ou comme Léonard de Vinci, vous voyez, il a cherché à faire, disons, pour employer ce mot savant, ornithoptère. Enfin, je l'emploie pas parce qu'il est savant, mais j'aime bien ce mot parce que c'est vrai que voilà, il fonctionne un tout petit peu comme vous voyez, un instrument médical, un instrument prothétique, voilà, qui te permet de voler et surtout presque de nager, vous voyez, dans le ciel, comme plus que qu'un oiseau, hein, comme un poisson nage dans l'eau, vous voyez, hein, parce que c'est une machine à voler, mais qui imite le vol des oiseaux, hein, et effectivement il faut brasser donc de l'air pour pouvoir s'élever. Bon, elle n'a jamais marché, et par contre il a fait des tas d'essais, et je retiens simplement, vous voyez, cette idée, ce couplage, vous voyez, donc entre l'architecture, des inventions architecturales, et puis aussi hein, ce désir comme ça. Hein, de s'élever, voilà, purement et simplement. Et surtout aussi, là, je retiens, vous voyez, cette idée hein, d'une prothèse. Vous voyez, voilà. L'architecture, peut-être, c'est une prothèse pour vivre selon certaines règles en commun. Et là, hein, c'est une prothèse hein, pour pouvoir s'élever dans le ciel. Mais ces inventions, si vous voulez, voilà, elles sont totalement contre nature, vous voyez, hein, puisqu'elles cherchent aussi à se substituer à la nature. Hein. Et c'est en ce sens, si vous voulez, hein, constamment qu'il faut revenir hein, sur les éléments de l'architecture hein, comme des éléments qui permettent donc hein, de construire hein, le monde, qui, de projeter voilà, le monde hein, qui est le plus favorable à notre développement. Voilà, ça c'est la tour, le montage hein, présentant la tour de Tatlin, qui est aussi une tour de Babel. C'est pas un labyrinthe, mais c'est une tour de Babel. Hein, et puis cette idée là de machines volantes hein, qui reprend hein, les recherches de Léonard de Vinci, même si finalement elle n'a jamais volé. Voilà, hein, autre image, autre immeuble constructiviste jamais construit, totalement iconique. Et là, vous voyez, quelque part, on va le voir, enfin on le voit très bien sur l'image, hein, c'est le commissariat à l'industrie lourde qui était projeté sur la place Rouge à Moscou par Ivan Leonidov. Vous voyez, d'emblée, voilà, il y a une sorte de mise en relation, vous voyez, entre l'ascenseur de la tour, qui n'est pas à l'intérieur, comme dans les tours américaines, mais qui est à l'extérieur, hein, et qui permet effectivement de desservir les différents plateaux, et puis l'avion. Donc, il y a cette mise en correspondance hein, chez Leonidov, hein, entre l'ascenseur et l'avion, et qui dit bien voilà, que l'ascenseur, c'est essentiellement fait hein, pour nous élever vers le ciel. Vous voyez. C'est fait pour réaliser hein, ce rêve que tout le monde fait, hein, de rester comme ça en suspension dans l'espace, hein, et bien sûr pour retrouver donc, dans ce rêve à la fois Icare et puis donc, la Madone en élévation. Voilà. La tour, le projet, ces deux tours hein, qui rappellent tout à fait l'architecture industrielle, et surtout, vous voyez, cette place qui est donnée hein, à l'ascenseur, hein, qui est extérieur, hein, et qui rappelle, qui est pratiquement une machine volante, hein, qui est donc soumise à la tour, au bâtiment, mais garde hein, une autonomie hein, qu'elle n'avait pas hein, dans les premiers gratte-ciel américains. J'ai toujours été fasciné. C'était un soir, j'ai rentré un soir d'un concert là, et j'ai vu l'Arche de la Défense et j'ai vu la référence, je ne l'avais jamais auparavant, entre les ascenseurs de François Deslogiers et puis donc ceux de Leonidov. Et là aussi, c'est toute une scénographie. Bon, c'est vrai qu'elle peut sembler un peu datée maintenant, parce qu'il y a ce nuage, et effectivement, on prend l'ascenseur, et on traverse le nuage, et puis enfin, on arrive donc sur le toit de la Défense, où on voit tout Paris. Donc il y a ce sentiment de vol, et en plus, c'est vrai que la capsule, je ne sais pas si on la voit bien là, c'est pas l'image que j'avais, mais on la voit pas très bien, mais voilà, complètement, elle est totalement vitrée. Et c'est vrai que on est lancé, on est projeté, et on a vraiment l'impression donc d'être en, en suspension, voyez, donc dans le ciel. Autre, autre exemple, toujours à la Défense, c'est le projet qui n'a pas été réalisé de Jean Nouvel pour la tour sans fin. Donc c'était un projet qui devait donner l'impression d'une tour infinie, voilà, d'une tour montant vers le ciel. Mais c'était aussi une tour, voilà, contrairement à la tour de Babel, totalement immatérielle, puisqu'en fait c'est un cylindre, c'est pas un cône, hein, comme la tour de Babel que nous avons vue la séance précédente, la tour de Bruegel, vous voyez, enfin, la tour peinte, imaginée et peinte par Bruegel, non, c'est pas une structure conique, c'est vraiment un cylindre très très fin, de 40 mètres de diamètre, hein, qui monte jusqu'à 400 mètres de haut. Et à la base, effectivement, la, la couverture, elle est en pierre, et puis plus on monte, plus c'est du verre sérigraphié, et après c'est du verre totalement transparent, hein, pour disparaître vers le ciel. Mais surtout, c'est vrai que la, la, la grande invention dans cette tour, hein, c'est que les ascenseurs, ils ne sont pas, vous voyez, au centre, hein, ce qu'on fait en général, pour, dans toutes les tours, mais ils sont déportés à la périphérie, hein, pour qu'on puisse. C'est une tour, voilà, qui n'a pas de noyau central. Hein, c'est une tour qui est structurelle. Là, on voit le squelette là sur la sur l'image. C'est une, un exosquelette, et au-dessus, sur l'exosquelette, donc, viennent se greffer les ascenseurs. Et derrière le squelette, donc, il y a des patios, hein, qui permettent d'apporter un maximum de lumière au bureau. Et il y a deux systèmes d'ascenseurs, donc il y a des grands, des ascenseurs ultra rapides, vous voyez, qui permettent de, définir, de desservir un groupe d'étages. Et puis, donc, il y a à chaque fois donc, des plateaux, hein, où on descend des ascenseurs ultra rapides et on se dirige après vers des, une autre, enfin, une autre, un autre réseau d'ascenseurs, hein, beaucoup, qui desservent, eux, les étages intermédiaires. Il y a toute une pensée là-dessus, voilà, vous voyez, hein, sur, sur cette tour. Et c'est vrai que cette tour, c'est pour ça que, bon, c'est vrai qu'on peut difficilement, c'est ça qui est fort toujours chez Nouvel, c'est que voilà, il a. Il va, enfin on dit que c'est quelqu'un qui fait des images, mais quelque part, il va au-delà de l'image, parce qu'il n'y a aucune image vraiment qui peuvent rendre cette, cette, ce, ce projet. Hein, où, où effectivement, donc, bon, d'abord très fin, bon, ça, ça bien sûr on peut le voir sur les photomontages, hein, mais ensuite de plus en plus transparent, ça c'est beaucoup plus compliqué à définir. Et puis surtout, donc, hein, ce mouvement, hein, permanent, donc, des ascenseurs, hein, qui s'envolent, hein, donc, vers le ciel. Voilà, bon, je vois pas, c'est un plan, mais c'est pas le plan du niveau où justement on passe d'un ascenseur à l'autre. Et là, c'est une coupe où on voit rien. Mais enfin, si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a des patios derrière les ascenseurs, hein, pour permettre d'éclairer les niveaux. Mythologie 5, Cap Canaveral. Excusez-moi, c'est un peu de mauvais goût aujourd'hui avec les fusées russes. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut voir ce que ça, ça, ça a pu être. Hein, dans les années 50, hein, c'est le lancement de fusées vers le ciel. Hein, c'est vrai que, d'abord, à l'époque, il y avait beaucoup de structures, parce qu'il y avait les fusées étaient montées sur place. Donc, il y avait des grandes structures qui permettaient le montage des fusées. Après, il y avait les rampes de lancement. Et c'est vrai qu'à chaque départ des fusées, donc, d'une fusée, il y avait une foule énorme, hein, qui venait donc, autour, hein, pour voir la fusée décoller. Là, on voit donc, la presse, hein, qui photographie le départ de la fusée, hein, ou qui parle en direct à la radio, hein, du départ de la fusée. Et là, effectivement, donc, c'est l'étendue du Cap Canaveral, hein, parce qu'il y a donc, à chaque nouveau programme, il y a d'autres installations. Hein, c'est sur une lagune. Donc c'était très facile de se développer, de se déployer. Et là, voilà, oui, là, on revoit. Là, quelque part, on retrouve quelque chose qu'on a déjà vu. Vous voyez, c'est pratiquement la tour, hein, du commissariat à l'énergie lourde. Vous voyez, donc, hein, on voit un ascenseur surdimensionné, et puis donc une rampe de lancement. Mais cette fois-ci, l'ascenseur eh bien, il est complètement déchaîné, parce qu'il n'est pas du tout domestiqué ni arraisonné, puisqu'il part de la tour et puis il s'élance directement dans le ciel. Ça, je pense, c'est une image qui a dû taper dans le cerveau des architectes, parce que c'est évident, parce que tout le monde était là-bas, aux États-Unis, tout le monde voyait ça à la télévision, tout le monde allait sur place pour voir les fusées décoller. Enfin, tous ces mythes, là, le mythe de l'Assomption, le mythe de la tour de Babel, hein, quelque part, on pouvait ils étaient réactivés, là, vous voyez, hein, dans cette lagune, hein, avec ces fusées. Et je pense que le mec qui a vraiment le mieux regardé ça, hein, c'est John Portman. C'est vraiment un très très grand architecte. Bon, c'est vrai qu'il n'est absolument pas considéré comme ça, en général, hein, par la critique d'architecture, parce que c'est vrai que c'était un petit peu aussi un homme d'affaires. Mais enfin, peu importe, c'est vrai qu'il a complètement compris ce truc, cet imaginaire, voilà, de la fusée. Quoi, voilà. Et il a compris effectivement que l'ascenseur, c'était ça aussi. Et tout à l'heure, quand vous allez rentrer chez vous, que vous prendrez l'ascenseur, vous y penserez, en appuyant sur le sixième étage. Vous penserez au décollage et vous entendrez les vibrations. Quoi. Voilà, c'est l'Embarcadero Center à San Francisco. C'est vrai que je suis allé, j'ai trouvé ce projet mais totalement sidérant. C'est des chambres d'hôtel, il y a un plan incliné comme ça, avec des terrasses, et après il y a une barre. Qui fait un angle, voilà. Voilà, on voit la vue de haut. Au-dessus, là, c'est un restaurant, et des ascenseurs descendent de là. Hein, c'est un restaurant panoramique qui tourne. Et là, oui, c'est la coupe, et on voit effectivement le gigantesque atrium, complètement délirant, qui reprend, ouais, tous les délires des architectes du XVIIIe siècle, que ce soit Piranèse ou Boulez. Et puis on voit bien sûr la capsule, hein, de l'ascenseur. Hein, ce n'est pas la capsule Apollo, ce n'est pas la capsule Mercury, mais c'est une capsule, hein, totalement transparente, hein, et qui permet, donc, comme une fusée, vous voyez, de passer du hall, hein, qui est finalement très horizontal, très calme, vers votre chambre, hein, et ensuite vous serez projeté, hein, dans le paysage. Voilà, c'est le hall, c'est je vous assure, c'est sidérant, vous voyez l'ambiance qui règne dans le hall, on peut boire un café. C'est parce que c'est un bâtiment, un truc totalement calme. Mais c'est presque un monde en soi, bien sûr. C'est un ciel comme ça qui est complètement repensé. Et puis ensuite, il y a les capsules qui permettent justement de. On la voit là, donc à droite de l'image. Qui permettent de relier donc les différents niveaux à l'atrium de l'hôtel. Voilà, c'est les coursives en porte-à-faux. Et là, donc, une autre photo, hein, qui montre en couleur cette ambiance, l'ambiance qui peut régner donc dans cet atrium. Autre hôtel, il y en a fait beaucoup, ils ne sont pas tous excellents, il en a fait partout, hein, pratiquement. Il a fait Los Angeles, il n'est pas très intéressant, mais quand même, toujours, il y a cette idée de, vous voyez, de vertige dont on a parlé, voilà, vous voyez, hein, il y a cette idée de décollage, de vertige, ce côté d'exaltation des sensations, ce côté homme dans l'espace. Homme diva peut-être aussi, voilà, qui dans lequel, parce que c'est un hôtel de luxe, c'est évident, donc dans lequel là, on est peut-être comme Socrate, peut-être pas tout à fait à sa place, mais voilà, en tout cas c'est un monde, hein, qui est fait donc autour de l'élévation. Donc autre hôtel de Portman qui est très intéressant, c'est celui de New York, hein, c'est le Marriott Marquis qui est sur Times Square. Et donc on rentre par les côtés, parce que donc sur Times Square, c'est pratiquement fermé, il y a des commerces en rez-de-chaussée, mais c'est la salle de théâtre. Et après on rentre donc par les côtés, et puis on voit, vous voyez là encore, on voit les deux, là c'est deux bars, et après des immeubles ponts qui se contractent, Et l'ascenseur, après, il va, les ascenseurs, après, ils vont traverser voilà, ces espaces hein, qui se contractent de plus en plus. Voyez. Voilà, comme on le voit sur l'image, voyez, vous avez un cylindre avec un cylindre avec des ascenseurs à la périphérie. Hein, et ces ascenseurs, donc, voyez, ils traversent voyez, un espace qui est d'abord compacté, après qui se dilate, après qui se rétracte, après qui se rétracte encore, et qui finit encore un tout petit peu par se dilater. Et c'est vraiment une sorte de voyage inter-sidéral à l'intérieur d'un bâtiment fermé. Donc là, on voit très bien au centre la tour avec les ascenseurs qui sont placés à la périphérie. Et là, vous voyez, c'est des ascenseurs donc, qui sont lancés donc, dans des, comme des fusées hein, dans un espace sidéral hein, qui se contracte et qui se dilate. Autre exemple aussi, bon, c'est vrai, un peu, pas tout à fait à la même échelle, mais c'est l'Institut du monde arabe de Jean Nouvel. Enfin, c'est une dimension de ce projet dont on ne parle pas souvent, parce qu'on parle finalement de la manière dont il s'inscrit dans la ville, on parle de la manière enfin, très intelligente, donc il s'est poussé au bord de la parcelle, au bord de la Seine, hein, il a suivi la courbe du quai, et pour dégager effectivement au maximum un parvis sur la façade sud. On a parlé aussi donc, des moucharabiers, on a parlé du patio, et par contre c'est vrai qu'on ne parle pas souvent donc, de l'ascenseur, et c'est aussi, je trouve, un des éléments les plus fascinants du bâtiment. Il y a aussi la bibliothèque là, qui rappelle une tour de Babel. Enfin, le projet est très unitaire, et en même temps, c'est vrai qu'il y a énormément de choses, on pourrait en parler des journées entières. Mais là, effectivement, c'est quand on rentre, vous voyez, on est complètement écrasé. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que, bon, c'est pas du tout la même échelle que les bâtiments de John Portman, parce que c'est pas très haut, mais on a exactement les mêmes effets. Les mêmes effets, pourquoi? Parce qu'il y a une parfaite maîtrise, vous voyez, du travail sur l'espace, hein, à la fois donc, l'écrasement, la dilatation. Et là, c'est vrai que, vous voyez, quand on rentre dans le bâtiment, on rentre par une fente, vous voyez, c'est très très bas. Vous voyez. Donc on est complètement écrasé. Et puis après, bon, je suis désolé, le plan n'est pas génial, mais voilà, on est là, sur la place, vous voyez. On passe sous les escaliers qui commencent à partir du premier étage, et puis on rentre, voilà, hein, dans un atrium vitré, avec les batteries d'ascenseurs. Vous voyez, donc c'est l'image que l'on peut avoir. Et en plus, comme tout est transparent, enfin, c'est une transparence qui est très travaillée, vous voyez, ça donne l'impression, voilà, d'une sorte de profondeur, voilà, totalement sidérale, vous voyez. C'est vrai que les éclats de lumière là, produits par cette façade moucharabiée, voilà, ça renvoie peut-être aussi donc, à un ciel étoilé. Ça, c'est un truc qu'on retrouve constamment dans le travail de Jean Nouvel. Voilà, un ciel étoilé et puis des ascenseurs, des batteries de fusées hein, qui partent vers les étages. Et même si ce n'est pas si haut que ça, voyez, on a quand même une impression d'infini comme chez John Portman. Autre exemple encore d'ascenseur, de rampe de lancement pour ascenseur, hein, c'est le bâtiment du regretté Richard Rogers, puisqu'il est mort il n'y a pas très longtemps, mais c'est sans doute le plus beau gratte-ciel de Londres, hein, c'est le Leyden Hall. Et c'est vrai que là, surtout, il est très très beau, là aussi il était calculé effectivement pour faire descendre la lumière au maximum dans la rue, et on voit très bien le bâtiment, donc il y a une partie bureau, hein, c'est la partie qu'on voit à gauche, et puis ensuite tout au fond, donc, hein, ce sont les batteries d'ascenseurs hein, qui viennent desservir ces bureaux. Mais en fait aussi, on peut commencer à se demander si ce n'est pas l'inverse, quoi, si ce n'est pas les plateaux de bureaux qui viennent desservir les ascenseurs. Voilà, il y a une ambiguïté qu'on va retrouver ensuite dans les autres chapitres. Voilà, vous voyez, donc là, d'un côté, les bureaux, là, donc, ils sont avec des exosquelettes qui montrent la structure, et puis de l'autre, donc à droite, les ascenseurs. Alors les ascenseurs, en fait, il y a une structure là, que l'on voit en jaune, et cette structure, donc, elle contient les paliers des ascenseurs, mais les ascenseurs, ils ne montent pas tous jusqu'en haut, c'est-à-dire qu'il y a des ascenseurs qui sont faits pour desservir les premiers étages, après il y a des ascenseurs qui sont faits pour desservir uniquement les étages intermédiaires, et puis enfin donc il y a des ascenseurs qui desservent les étages du haut. Donc, ce qui permet effectivement, vous voyez, d'avoir toute une scénographie, comme une sorte de balai mécanique, vous voyez, entre d'un côté ce qui monte en haut, ce qui s'arrête au premier étage, et puis de l'autre côté ce qui desservent les étages intermédiaires. Bon, là, c'est l'entrée sous le bâtiment. Et là, c'est l'accès donc, ensuite à la batterie d'ascenseur. Et là, c'est la structure là, primaire là, sur laquelle vient se fixer une structure secondaire qui peut être enlevée, hein, et qui permet donc, qui sert de cadre, hein, pour que les ascenseurs puissent desservir les différents étages. Voilà, un ascenseur. On est lancé dans l'espace, hein, là encore, comme dans une fusée. Et c'est vrai que la tour, c'est comme une rampe de lancement, hein, pour les fusées, pour l'ascenseur. Hein, c'est là où c'est important. Voilà, c'est là. Quelque part, peut-être, l'homme nouveau créé par la tour, il est moins dans le plateau de bureau, parce que les plateaux de bureau sont quand même assez écrasés, notamment ceux du bas, mais il est vraiment, vous voyez, donc, dans l'ascenseur, voilà, hein, quand il s'élève, hein, comme un deus ex machina. Voilà, la structure en jaune, et puis ensuite, par-dessus, donc, les éléments qui viennent s'accrocher quand, eh bien, effectivement, les ascenseurs parviennent au niveau. Voilà, et puis là, on voit très bien, vous voyez, donc là, c'est le niveau 6, donc il est desservi par la batterie d'ascenseurs centrale, donc les gens arrivent là. Ici, les ascenseurs ne font que passer, ils ne s'arrêtent pas, et donc c'est les toilettes de l'étage. Après, niveau 22, donc c'est ce côté qui est desservi. Voilà, là, il n'y a plus rien. Et puis là, effectivement, ça sert de toilette, puisque ça, c'est des ascenseurs qui montent jusqu'en haut, ils ne s'arrêtent pas. Et puis enfin, donc, dernier niveau, les ascenseurs qui arrivent en haut et qui desservent l'étage, le niveau 40 et les niveaux les plus hauts, alors que là, ça sert encore pour les toilettes. Et là, donc, la façade postérieure, vous voyez, avec les fusées qui montent et qui descendent. Autre exemple, bon, parce qu'on va, on va voir surtout, voilà, comment l'ascenseur il peut être aussi associé à l'escalier ou à la rampe. Vous voyez. Voilà, quelque part aussi, c'est une transformation. Voilà, quelque part. Je dis que on n'est pas transformé par l'ascenseur par rapport à l'escalier, parce qu'effectivement, il n'y a pas de... On n'est pas sculpté par la montée, par l'effort physique, hein, qui doit faire monter les marches. Mais malgré tout, voilà, quelque part, quand on prend un ascenseur et qu'on arrive au dernier étage, on peut dire quelque part qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la dématérialisation. Voilà, on est presque dématérialisé. Voilà. Et donc quelque part, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai mis cette image là, de la résurrection. Voilà, vous voyez, c'est, hein, celui qui arrive en haut, quelque part, il est quand même pas tout à fait le même que lorsqu'il était en bas. Et quelque part, il s'est dématérialisé. Voilà, voilà, c'est d'ailleurs un petit peu aussi ce qui était sous-jacent tout à l'heure dans l'analyse de Colas. Vous voyez, hein, c'est de dire que voilà, quand on prend l'ascenseur, c'est un peu comme quand on est au cinéma. Voilà, on est dans son fauteuil et le corps il est complètement absent. On est prostré dans son fauteuil. Hein, on n'a aucune sensation corporelle. Hein, c'est que la vue est l'ouïe. Hein, et on est plongé dans les images. Donc quelque part au cinéma, c'est vrai qu'on est dématérialisé. Et quelque part aussi au cinéma, peut-être on est mort et ressuscité. Et l'ascenseur, c'est un tout petit peu la même chose. On est dématérialisé. Et là, ce couplage... Vous voyez, rampe et ascenseur, c'est vrai qu'on le trouve au Guggenheim, hein, parce que quand vous rentrez dans le Guggenheim, vous ne montez pas directement sur la rampe, vous prenez l'ascenseur, et quand vous arrivez en haut, vous descendez la rampe, donc il y a le couplage, vous voyez, donc ces deux éléments de circulation, et c'est vrai que la rampe, quand on la descend et quand on la monte, ce n'est pas la même chose, hein, parce que quand on la descend, d'ailleurs, Paul Viriot et Claude Parent ont beaucoup parlé de ça, hein, dans l'espace, on appelle ça l'espace... l'espace oblique, voilà. C'est pas la même chose. Voilà. Quand on la monte, eh bien, on sent un effort, et quand on la descend, on le sent plus encore, et donc on est complètement dématérialisé. Et là, quelque part, il y a une sorte de transformation qui est opérée, vous voyez, par ces deux éléments de la circulation. Un ascenseur, voilà, qui permet de monter directement en haut, sans aucune fatigue, mais quand même, malgré tout, justement, qui nous a un tout petit peu, en nous enlevant cette fatigue, qui est nécessaire à monter les étages, qui nous a un tout petit peu dématérialisés. En nous rapprochant du ciel, il nous a un tout petit peu transformés. En nous rapprochant du ciel, peut-être, effectivement, il nous a permis aussi de ressusciter. Et après, la descente, vous voyez, hein, où on oublie complètement son corps, hein, pour être complètement plongé, vous voyez, donc dans les œuvres qui sont présentées. Autre exemple, bon, un peu différent, là c'est le couplage ascenseur-escalier. C'est le dépôt de MVRDV à Rotterdam qui vient d'être terminé. Et ça aussi, je trouve que c'est un projet dont on pourrait parler pendant des heures et des heures. Et là aussi, donc, quand on rentre, on prend l'ascenseur, on monte et ensuite on descend par des escaliers. Et là aussi, si vous voulez, c'est vrai que l'ascenseur est essentiel parce que dans ce musée, quelque part, c'est un musée, c'est pas un musée vraiment pour le public, si vous voulez. Voyez. Parce que, en général, quand vous allez au musée, vous voyez, donc d'abord, vous traversez toutes les époques, là, vous passez. Vous faites ce que vous voulez, mais en général, vous commencez par le Moyen-Âge, puis vous voyez des œuvres du Moyen-Âge, puis quelque part, ça vous aide à comprendre voilà, comment les gens. Enfin, ça vous aide à mieux comprendre les œuvres que vous voyez, parce qu'il y a constamment des références qui sont, disons. C'est des peintres qui vivaient dans la même culture, donc vous avez des mondes. Et en plus, les salles se suivent selon un certain ordre. C'est comme il y a comme une sorte de travail sur la mémoire. Il y a le corps, la mémoire. C'est très différent, parce que d'abord, ce n'est pas un musée, c'est un dépôt. C'est un dépôt, donc les toiles sont dans des salles. Mais elles sont pas faites pour être, elles sont pas faites vraiment pour être, enfin elles sont pas faites pour être vues, elles sont faites pour être conservées. Donc dans les salles, si vous voulez, vous pouvez avoir des toiles contemporaines et des toiles anciennes. Ce qui détermine leur classement, c'est pas leur histoire, c'est pas les styles, vous voyez. Enfin, simplement, c'est les dimensions. Les grandes toiles sont toutes mises au même endroit, et c'est aussi la manière dont elles sont peintes ou leur matière. Vous voyez. Donc les peintures sur bois. Elles sont modernes ou contemporaines, elles sont dans certaines salles parce qu'elles ont, besoin d'être. Parce qu'effectivement, les peintures sur bois, vous voyez, pour être préservées, eh bien, elles ne réclament pas le même milieu que la peinture sur toile. Donc vous voyez, c'est tout un classement qui est très, très particulier. Voilà. Et par contre, vous pouvez pénétrer dans ces salles, et en plus, pour pénétrer dans ces salles, vous n'y allez pas comme ça, il faut être accompagné par un animateur qui vous explique les toiles. Parce qu'en fait, ce que vous allez voir, c'est par exemple un Basquiat à côté d'un Bruegel. Voyez. Voilà, c'est un truc voilà, complètement différent. Et en plus, comme c'est un dépôt, c'est comme si vous rentrez par effraction. Voyez, comme si vous étiez mort et que vous revenez comme ça, faire chier les vivants. Voyez. Voilà, donc il y a cette idée-là, vous voyez, voilà, on est. On ne peut pas se rappeler parce que c'est impossible. Vous voyez, c'est toute la peinture qui est là, mais elle est en vrac. Vous voyez. Donc, on peut vous faire voir les toiles, mais c'est presque impossible, vous voyez, de trouver des récurrences entre un Basquiat et un Bruegel, alors que c'est possible de trouver des récurrences entre un Bosch et un Bruegel. Là, c'est pratiquement impossible. Et donc, c'est un savoir comme ça, vous voyez, qui vous est donné, mais quelque part, pour quelqu'un. Qui n'aurait plus de corps, qui n'aurait plus de mémoire, qui n'aurait plus de corps, et on vous donne comme ça donc toutes ces informations, et vous plongez comme ça dans une culture qui vous dépasse complètement, et vous avez quelque part aussi aucun moyen vraiment pour la saisir, pour la comprendre. Enfin, ce bâtiment, je pourrais en parler des heures. Mais en fait, voilà, c'est un dépôt, hein, c'est simplement un contenant. Et en même temps, comme contenant, ils ont pris le truc le plus con qu'ils pouvaient trouver, c'est-à-dire une tasse. Voilà, voilà, tu veux un dépôt, bah tiens, t'as un dépôt, quoi. Bah, ah oui, bravo, très bien, super. On va voir, on va le mettre à côté du musée actuel. Voilà, c'est simplement, c'est un dépôt. Donc on arrive, là, on prend l'ascenseur, on monte. Hein, y a un atrium, et puis ensuite. Voilà, on voit. Excusez-moi, on arrive. On arrive, on prend l'ascenseur, on monte, voilà, ici, les ascenseurs là et là, et après on redescend, et après donc on est invité, donc enfin il faut réserver à l'avance, et on est invité par un animateur à visiter les salles. Et pour visiter ces salles, il faut s'habiller d'une certaine façon pour pas que votre présence à l'intérieur de l'espace ait une incidence sur l'hygrométrie, la chaleur du bâtiment, là, la chaleur de l'espace. Et après, vous ressortez. Et aussi, il faut avoir un téléphone portable pour pouvoir scanner les codes pour savoir ce que vous voyez. De toute façon, tout est mélangé. Tout est, et ce qui est très beau aussi, c'est que voilà, vous avez les cages d'ascenseur, là. Et puis aussi, il y a des cages d'ascenseur qui sont immobiles, dans lesquelles vous avez des œuvres. Vous voyez, donc vous avez l'impression comme ça d'être en lévitation. Peut-être après la fin du monde, il y a plus de après l'invasion russe, il y a plus de il y a plus de il y a, il y a plus rien, il y a plus de lien. Vous regardez le monde comme ça d'une manière, enfin totalement éloignée, voilà, avec une distance infinie, voilà. Comme un martien. Voilà, les ascenseurs. Voilà, vous montez. Il y a une très belle chose. Là, c'est des boîtes, vous voyez, qui sont en suspension dans l'espace, mais qui ne bougent pas, dans lesquelles il y a des œuvres. Vous ne savez pas, de toute façon, jamais si c'est ce que vous voyez, ce sont des œuvres ou des gens qui visitent le musée. Il y a une chose très belle, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas très bien sur ma photo, c'est que quand vous sortez de l'ascenseur, vous marchez sur un sol en verre, et puis à 1 mètre de ce sol, il y a une œuvre qui a été demandée à un artiste, et vous avez cette impression comme ça d'être en totale lévitation. Vous voyez. Vous étiez en lévitation dans l'ascenseur, et quand vous sortez, vous êtes encore en lévitation. Voilà, comme un mort qui revient, voyez, quand tout a été dit, quand tout a été fait. Hein, quand il n'y a plus de, même plus de mémoire possible. Hein, et vous regardez, vous voyez, des toiles sans commune mesure, les unes avec les autres. Et vous mettez donc des combinaisons isothermes, hein, pour ne pas venir perturber, hein, donc l'ambiance, hein, de la réserve. Autre manière, voilà, de combiner une hélice, enfin une rampe et puis un ascenseur, c'est le travail d'une studio pour le musée Mercedes-Benz, parce que c'est une double spirale comme ça, donc en bordure. Ce qui est beau aussi, c'est vrai que c'est un bâtiment qui est connecté directement à des infrastructures, bon, pas des rampes de lancement de fusées, mais des autoroutes, et on est vraiment dans un monde totalement infrastructurel. Et c'est vrai qu'on est en monde en mouvement. Voilà. Il y a les voitures qui sont en mouvement. Après, effectivement, le musée fait une double hélice, comme on a vu la fois précédente avec le château de Chambord. Et dans cette double hélice, il y a deux parcours. Donc, un parcours historique, où on voit toutes les voitures, enfin, l'évolution de l'entreprise Mercedes. Et après, un parcours thématique. Voilà, tout s'organise donc autour d'un atrium, là encore. Et dans l'atrium, il y a des ascenseurs là, qui permettent donc soit de monter puis de descendre, soit d'accéder au niveau. Voilà. Mais là, ce qui est intéressant, c'est l'ascenseur, en fait. Vous voyez, il y a une sorte de basculement. Parce que tout est. Il y a l'autoroute dehors avec les circulations. Après, il y a les doubles rampes où les gens marchent. Et après, il y a les ascenseurs qui montent et qui descendent. Et les ascenseurs, ce qui est assez fascinant, c'est que. Vous voyez, ils ne se donnent pas comme tout à l'heure chez John Portman, comme des capsules. Ils se donnent pratiquement comme des véhicules. Vous voyez. Et on ne sait pas si le mur, il est vertical ou s'il est horizontal. Il y a une sorte de basculement complet, hein, donc, du bâtiment. Voilà, on voit l'ascenseur. Hein, et c'est vrai que ces ascenseurs, on ne sait pas quand on voit la photo. Hein, s'il est posé sur des rails, hein, et qu'il est sur une surface horizontale, ou si au contraire, donc il est posé sur des crémaillères, sur une surface verticale. Voilà, donc une sorte de basculement. On monte, on ne sait pas si on monte, si on descend. Parce que de toute façon, quand on prendra la rampe, on descendra ou on montera. Vous voyez, tout bascule. Voilà, autre manière de voir les choses, beaucoup plus essentielle, hein, c'est l'idée d'inversion. D'ailleurs, comme on l'avait vu, je crois, là, il y a 3 semaines pour l'escalier, c'est-à-dire que on peut très bien imaginer, dans un bâtiment, que ce ne soit pas l'ascenseur qui desserve les étages, mais ce soit les étages qui desservent l'ascenseur. Et ça, vraiment, le penseur de ça, c'est vrai que c'est Ram Koolhaas, hein, dans plusieurs projets, notamment celui-là, vous voyez, donc la maison Le Moine, hein, parce que c'est une maison qui a été faite pour un paraplégique, hein, qui ne pouvait pas se déplacer, ou il pouvait se déplacer uniquement sur chaise roulante. Et donc, au centre, il a mis une pièce, hein, et cette pièce, c'est sa pièce de vie. Et effectivement, toutes les strates du bâtiment, eh bien, elles ne sont pas là pour être desservies par ce monte-charge, mais au contraire, vous voyez, elles desservent le monte-charge. Et la relation de subordination de l'ascenseur au plateau, eh bien, est complètement renversée. D'ailleurs, c'est le malaise que l'on a quand on... Enfin, quand je suis entré dans la maison... Enfin, il était déjà décédé, Monsieur Le Moine, mais j'avais rencontré sa femme. C'est vrai que le malaise qu'on a, c'est qu'effectivement, c'était fait uniquement, vous voyez, pour... La maison était faite uniquement, pratiquement, même si elle disait le contraire, c'était fait uniquement pour le paraplégique. Quoi. Et c'était vraiment... Elle était vraiment faite uniquement... Elle s'organisait uniquement, donc, autour de cet ascenseur. Voilà, donc là, on est dans le plateau... Dans un des plateaux, donc là, c'est le plateau du séjour qui est au-dessus donc, du plateau de service avec le garage, la cuisine, et puis les offices, enfin les bureaux. Et là, c'est un grand plateau donc complètement ouvert. Bon, bien sûr, il y a autre chose dans la maison, hein, c'est ce que je n'ai pas dit là, mais en fait, c'est la structure qui est complètement délirante puisque tout est fait, si vous voulez. Enfin, c'est vrai, c'était une tendance, peut-être maintenant c'est tout à fait différent, mais c'était une tendance dans ces années 90-2000 où, en fait, il fallait toujours s'ingénier à ne pas faire comprendre comment le bâtiment pouvait tenir. Puisque là, en fait, le bâtiment, voilà comment il tient. Vous avez l'escalier qui est là, qu'on voit là sur la photo. Excusez-moi. Voilà, qu'on voit là sur la photo. En fait, cet escalier, il est en béton. C'est pas un miroir. Il tient. Il tient quoi? Il tient pas l'étage, il tient pas le sol, il tient pas la dalle. Il tient la poutre en haut. Voilà, la grande poutre en métal. L'IPN en métal. Et l'IPN, il tient quoi? Il tient les deux éléments de façade de l'étage des chambres. Et ces deux éléments de façade, c'est des poutres. Voilà. Et ces poutres, ici, elles reposent sur un portique. Et le portique, il est décalé. Comme ça, on n'a pas l'impression que c'est lui qui tient. Et là, comme l'escalier n'est pas vraiment au milieu, eh bien, la poutre, elle est attachée par un câble à un massif de fondation. Voilà. Donc là, si on ne l'explique pas, bah, vous pourrez chercher, vous n'allez pas comprendre comment il tient. Et effectivement, vous avez l'impression qu'elle semble complètement en lévitation. C'est vraiment des strates en lévitation. Donc c'est vrai que la structure, quelque part, on ne la voit pas. Elle ne vient pas interférer. L'important, c'est d'avoir un jeu de strates et d'avoir effectivement donc, cette pièce mobile hein, qui est desservie par ces strates, et à travers laquelle toute vous voyez, l'habitation s'organise. Là, on voit les strates, la strate de service, la strate commune, la strate des chambres. Bon, la strate des chambres, elle est séparée par une faille, hein, donc, ce qui complique encore la lecture, bien sûr, avec d'un côté la partie réservée aux enfants, et l'autre, donc... ou paraplégique à sa femme. Et là, voilà, c'est la pièce de vie, quoi. C'est à la fois un monte-charge, c'est aussi une bibliothèque, hein, dans laquelle on peut monter centimètre par centimètre pour choisir le livre dont on a besoin. On est éclairé par le haut, par les côtés. Vous voyez, c'est la pièce de vie par excellence. On est en lévitation, voilà, dans l'espace. On est à la fois en lévitation dans l'espace, et l'espace, il vient nous servir. C'est pas... Vous voyez, on ne prend pas l'ascenseur pour monter dans sa chambre, non. C'est quelque part la chambre qui vient à toi. Et c'est aussi un musée. Et c'est aussi la chambre qui vient à toi. Strate. Autre exemple d'inversion. Non, il faut dire que voilà, oui, l'ascenseur, on peut... Enfin, on peut voir les choses comme ça. D'ailleurs, j'avais un article, écrit un article dans Archiscopie, j'aurais dû le rapporter, où j'avais vu les choses un peu comme ça. C'est-à-dire que, on peut dire, si vous les voyez aujourd'hui, enfin, c'est un peu le cas, c'est le cas chez moi, si vous voulez. Voilà, aujourd'hui, enfin, voilà, l'ascenseur, c'est rien, quoi. C'est un truc où on s'emmerde parce qu'on a peur de rencontrer ses voisins. En plus, il va falloir en attendre. Voyez. Donc, c'est pas un truc positif. Alors que ça pourrait être une chose complètement délirante. Voyez. Ça pourrait être effectivement un manège de Luna Park. On pourrait avoir le vertige. Voyez. On pourrait se sentir en suspension. On pourrait vraiment ressentir ce pourquoi, quelque part, l'ascenseur a été inventé. Voyez. Donc, ce passage, hein, cette dématérialisation. Voyez. On passe sans même mourir, hein, de la terre au ciel. Et c'est vrai que c'est pas le cas. Et là, ce qui est fort chez Rem Koolhaas, bien sûr, c'est d'avoir pratiqué cette inversion et d'avoir de montrer, hein, que quelque part on peut complètement changer les choses. Et puis, au lieu de concevoir l'ascenseur comme un élément servile qui vient desservir les étages, on peut au contraire le concevoir comme un élément majeur, hein, et faire en sorte que ce soit les étages qui viennent le desservir. Bon, on a vu la maison Le Moine pour un paraplégique. Maintenant, on voit la Fondation Galerie Lafayette. C'est pas pour un paraplégique, hein, c'est pour des artistes. Et l'idée, effectivement, donc, au départ de la Fondation Galerie Lafayette, c'était de faire une sorte de fondation, voilà, comme Vuitton, voilà. Et donc ils ont appelé Rem Koolhaas. Ils ont dit, voilà, on va faire une fondation, on est dans le Marais. On est en train de complètement retransformer le quartier du Marais, parce que le BHV, ça nous appartient. Il y a toutes les réserves. Là, maintenant, on travaille plus à flux tendu, donc on peut les occuper, qui sont dans le quartier. On veut transformer complètement le quartier. On veut faire doubler la surface de chalandise des rues en permettant aux gens de traverser les cours et mettre des commerces dans les cours. Et puis, on voudrait aussi, donc, bon, la fois, donc on va faire Hit Italy, et puis on va faire aussi, d'autres choses, mais on va faire aussi donc une fondation d'art, parce que c'est un quartier historique, c'est un quartier important, et on n'est pas très loin de Beaubourg, donc faites-nous ça et essayez de faire. On voudrait, bon, bien sûr, le truc c'était de dire, c'est faire la fondation Vuitton, un truc comme ça. Mais Koolhaas s'est dit, mais écoutez, de toute façon, on n'avait pas assez de fric pour faire ça, donc c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, quoi. Donc il faut comprendre que voilà, ce qu'il faut faire, c'est faire un bâtiment actif, c'est faire une machine, hein, une machine où l'art est en train de se faire, parce que c'est quand même un ancien quartier artisanal, et donc voilà, il faut pas faire une fondation, mais il faut faire une institution là où les artistes viennent en résidence et puis présentent leur travail. Donc dans le sous-sol, on va faire des ateliers, et puis on va faire en sorte avec tout le matériel possible, inimaginable, parce que finalement il y a de tout. Quoi, voyez, les artistes d'aujourd'hui, ils travaillent sur tout. Il y a pas, voyez, tu joues trois notes sur une guitare électrique, t'es un artiste, ou tu fais des projections. Voyez, c'est pas, tu fais de la danse, tu peux. Voyez, ça, c'est pas, c'est, voilà, il y a plus de support privilégié. On ne sait pas ce que c'est là aujourd'hui. C'est vrai, on n'arrive plus à le définir, vous voyez, il est complètement indéfini. Donc, et on ne peut pas savoir non plus comment les artistes vont travailler, et surtout comment ils vont présenter leurs œuvres. Voilà. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le bâtiment existant, il n'a pratiquement pas touché, parce qu'en plus, c'est un quartier historique, avec les snipers des monuments historiques qui étaient en tous les sens. Donc, il a pas cherché à toucher le truc, il a simplement occupé la cour. Faire un bâtiment, il me semble presque, enfin, qu'on peut presque démonter, si vous voulez. Et dans cette cour, qu'est-ce qu'il a mis? Enfin, on pourrait dire un ascenseur. Voilà. Hein, c'est-à-dire, c'est des plateaux comme ça qui sont posés sur, enfin, des plateaux qui ont des moteurs, des plateaux qui incluent des moteurs. Et après, la structure, donc, il y a des crémaillères, l'antenne des crémaillères. Et donc, c'est des plateaux qui peuvent, enfin, pas comme ça, mais qui peuvent monter. On peut faire un vide absolu, avoir une grande cage, ou alors on peut avoir des plateaux, on peut avoir plusieurs étages, ou alors on peut avoir des plateaux sur des niveaux complètement différents. Voilà, c'est le principe. Bon, c'est vrai que c'est pas des choses c'est pas des choses qui bougent, mais quand même malgré tout ça, ça fonctionne, si vous voulez, voilà, comme un ascenseur. Et par contre, voilà, c'est les étages, vous voyez, qui viennent nourrir, hein, cet espace, qui est l'espace majeur de représentation. Hein, vous pouvez avoir donc effectivement voilà, toutes sortes de supports. Ça peut être de la danse, ça peut être des conférences, ça peut être de la musique, ça peut être des projections de photos, ça peut être des photos, ça peut être des films. Vous voyez, ça peut être des choses, ça peut être des choses qui sont même pas imaginables, quoi, voilà, pratiquement. Et donc c'est une simple machine, voilà, avec des plateaux qui montent et qui descendent en fonction donc des demandes des artistes. Et là, en fait, effectivement, donc c'est pas l'ascenseur qui dessert, mais c'est les étages qui desservent l'ascenseur. Et ça, c'est toutes les possibilités, hein, effectivement, qui sont permises par le dispositif. Pour terminer, bon, revenons encore donc sur l'idée de résurrection et de chute. Revenons finalement à cette toile qui est complètement démente de Michel-Ange, le jugement dernier, où on voit d'un côté à gauche, on voit les corps qui montent, et le jugement dernier, donc les morts sortent de terre et montent pour être jugés. Donc il y a d'un côté ceux qui montent et qui vont après au ciel, et après de l'autre côté, il y a ceux qui tombent et qui descendent à l'enfer. C'est une dimension dont je n'ai pas trop parlé, c'est vrai, mais ça c'est le livre de Rem Koolhaas, Elevator. Donc ça reprend effectivement son exposition à Venise, Element of Architecture. Et lui, c'est vrai, il montre très bien que finalement, voilà, il y a une histoire parallèle, vous voyez, entre les éléments qui permettent, les palans, qui permettent de descendre au fond au fond des mines pour chercher de la pierre, du fer, du cuivre, du charbon. Et puis après, vous voyez, une autre histoire qui permet donc de monter, hein, donc, vers des bâtiments de plus en plus hauts. Et il y a un ascenseur finalement qui symbolise totalement, vous voyez, cette idée de naissance et de chute. Il porte le nom de Paternoster, notre Père. Et en fait, c'est un ascenseur qui est en quelque part un ascenseur, un mouvement continu. Vous voyez. Donc, il est très très lent comme ça, et puis il monte et il descend. Il ne s'arrête jamais. C'était inventé à la fin du XIXe siècle. Il y en a encore en fonctionnement. Enfin, il en existe encore, je crois, à Bruxelles, à Vienne, à Berlin, à Copenhague. Il y en a encore peut-être une centaine dans le monde. Mais effectivement, ils sont très peu ouverts au public parce que c'est des ascenseurs qui sont relativement dangereux. Et vous voyez, ce sont des choses comme ça qui montent et qui descendent, et qui rappellent aussi, et dans lesquelles il subsiste, vous voyez, donc une dimension ludique, vous voyez, parce que là, on voit, vous voyez, c'est celui de la maison de l'industrie à Vienne, vous voyez, on voit qu'il faut sauter dans l'ascenseur quand il arrive à son niveau, et après, il faut sauter pour redescendre, pour sortir, il faut sauter, enfin, il faut le faire intelligemment, bien sûr, mais vous voyez, il y a un côté ludique, en tout cas, voilà, il y a un côté, et en plus, c'est un côté, aujourd'hui, où tout est sécurisé, même le métro, c'est vrai que c'est terrible à lire, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté ludique, il y a ce côté aussi, voilà, on monte et on descend. Et ça, c'est un projet de Rem Koolhaas. Hein, c'est un projet, c'est pas, enfin, il n'a jamais présenté ce projet en fait, parce que c'est un projet. C'était une esquisse pour le réaménagement de la tour Montparnasse. C'est l'agence, comment s'appelle l'agence qui a gagné, enfin, c'est trois agences qui ont gagné, mais. Bon, c'est vrai, lui, il n'a pas gagné, c'est clair. Et de toute façon, ce n'est pas le projet qu'il a présenté. Ça, c'était juste une esquisse qu'il a présentée, parce qu'en fait, voilà, il y avait plusieurs équipes retenues, et c'est un petit peu ce qu'on fait souvent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à chaque étape, donc, les équipes devaient présenter devant les propriétaires de la tour leurs travaux. Et là, c'est vrai qu'il a eu une idée, mais totalement démente, quoi, si vous voulez. Pour effectivement desservir, enfin la grande question effectivement c'est comment desservir le restaurant sans parce que bien sûr il a un accès réservé, et lui effectivement il a associé, vous voyez, donc à l'ascenseur l'idée de la grande roue, et donc il y a ce retour comme ça, donc il y a eu ce retour à Coney Island, c'est-à-dire qu'on imaginait, vous voyez, que les gens qui montaient au restaurant comme à la grande roue, donc il prenait une cabine et puis très lentement, donc il montait au fur et à mesure que les gens sortaient. Et puis à l'inverse, voilà, vous voyez, pouvait descendre. Et comment ça permettait aussi de, vous voyez, de renouer, voilà, vous voyez, avec l'essence, voilà, totalement ludique, hein, de l'ascenseur, hein, donc comme Coney Island, voilà, c'est la grande roue, les parachutes, le réintégrer, vous voyez, cette dimension qui a été, voilà, je pense, totalement sacrifiée, parce que aujourd'hui, c'est assez rare, vous voyez, les ascenseurs qui sont mis en évidence. J'en ai fait voir quelques-uns, bien sûr, il y en a d'autres, il n'y a pas que cela, bien sûr. Mais donc, c'est extrêmement important, vous voyez, de revenir aussi, je vous dis, à toutes les mythologies là, que comporte cet ascenseur, hein, comme justement l'Assomption, voilà, effectivement, hein, on passe voilà, d'un état à un autre sans changer fondamentalement, voyez, sans effort, voilà, c'est pas comme l'escalier, on est changé quand même. Hein, mais on est à la fois le même et puis quelqu'un d'autre, hein, en montant, en prenant l'ascenseur, et puis on est aussi, vous voyez, donc, comme le personnage de Stanley Kubrick, hein, qui part dans l'espace. Vous voyez, c'est aussi donc, une des dimensions, hein, de l'ascenseur, hein, cette idée de s'élever. Et quelque part aussi, c'est presque quelque chose de presque critique, voyez, parce que on s'élève, on prend la place des dieux, et puis en même temps aussi, on s'élève, et puis on est perdu, hein, complètement, hein, dans l'espace. Puis il y a un effet, voilà, mais je pense qui est constant, qui est patent dans l'ascenseur, voyez. Il y a une possibilité de déréliction complète, voyez. On se perd, on se dématérialise. Et c'est vrai que, voilà, je vous conseille d'y réfléchir. Merci.